travail au Cachin oriental. J'ai réduit totalement cette
étude. Moi, c'est Céline de Combati, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre dans cet échange citoyen sur la fréquence de la paix. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, Antigua ADT, le vendredi 9 janvier 2015 dernier, une lettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, pour dénoncer ce qu'elle qualifie de harcèlement médiatique dont sont victimes certains mandataires de l'État. Dans cette lettre, l'ANEP accuse certains médias de trouver plaisir à faire chanter des mandataires par des articles diffamatoires à plusieurs égards. Elle estime qu'il s'agit là d'une campagne de déstabilisation à l'approche de la nouvelle mise en place attendue dans les entreprises et les établissements publics. Comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour votre participation à cet échange en direct. Dieudonné Nyangasa assure la mise en onde de ce programme. Faisa Julie Bongonda et Pierrot et la Mégis sont à la réalisation de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Capi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Capi en balade.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ces studios M. Patrick Ngoulou, qui est directeur exécutif de l'ADEP. Bonjour Patrick.
Bonjour J.R.
Voilà, vous avez signé cette lettre aux côtés de M. l'administrateur secrétaire exécutif, professeur Richard Ngoussim Penka, pour dénoncer ce que vous avez qualifié de harcèlement médiatique. Dans cette lettre, au fait, nous avons remarqué qu'il s'agit là d'un rappel des faits qui se sont déroulés en 2008, 2009 et 2012. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement?
En fait, je commencerai par corriger, ce n'est pas directeur exécutif, c'est M. Patrick Ngoulou, directeur technique voilà. À l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille. Et ensuite, je vous présenterai un peu l'ANEP, qui est un syndicat patronal, une chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie. En tant que telle, elle a une double mission. D'abord, la mission en tant que syndicat patronal, c'est d'assurer la défense des intérêts de ses membres, et en tant que chambre de commerce, c'est faire la promotion de ses membres. C'est en cette qualité que l'ANEP, après avoir observé beaucoup de faits négatifs vis-à-vis des entreprises, parce que quand on attaque un mandataire, c'est l'entreprise qu'on attaque, l'image d'une entreprise est représentée par le mandataire. C'est ainsi que l'ANEP a écrit cette note, ou ces sacs, afin que celle-ci puisse sensibiliser ses membres à vérifier le fait avant de les écrire. Parce que c'est vraiment dommageable vis-à-vis des entreprises. Vous imaginez qu'un journaliste se permet d'appeler un mandataire ou de lui faire un SMS pour monnayer une information. C'est-à-dire que le journaliste estime qu'il a une information en défaveur du mandataire, il appelle pour afin qu'il puisse marchander, lui donner un peu d'argent afin qu'il ne puisse pas le mettre dans la presse. Ce qui est vraiment dommage, ça discrédite non seulement le métier des journalistes, mais aussi le fait non vérifié une fois écrit, ça discrédite aussi les entreprises. Et vous savez que les entreprises sont des entreprises commerciales pour la plupart, qui ont besoin de la confiance de leurs partenaires, de partenaires financiers, des clients. Et quand une entreprise est attaquée, ça discrédite vis-à-vis de ces partenaires-là. C'est ainsi que la NEP,
dont la NEP a reçu des plaintes de certains mandataires qui sont membres de cette organisation.
La NEP a reçu des plaintes de beaucoup de mandataires.
Mmh.
De beaucoup de mandataires parce que nous lisons dans la presse, nous tous nous lisons la presse. Un mandataire a fait ceci, mafia dans telle entreprise, vol dans telle entreprise, détournement dans telle autre, c'est ce qui n'est pas bon.
Et dans bien des cas, ces faits ne sont pas avérés.
Ne sont pas ni vérifiés ni avérés. Vous savez que par le temps qui court, depuis le mois d'octobre de l'année passée, quand le chef de l'État
a annoncé
la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale, il y a beaucoup de gens qui ont estimé que ce gouvernement ou cette mise en place devait être élargie à tout poste de responsabilité, notamment le mandat public, le mandat au sein des entreprises du portefeuille. C'est ainsi que vous remarquerez depuis ces temps-là, que ce soit les acteurs de la majorité, les acteurs de l'opposition ou les acteurs de la société civile sont en train de tirer à boulet rouge sur les mandataires.
Alors aujourd'hui, ne parlons pas que au centre du débat, c'est la gestion des entreprises. Est-ce que la NEP a eu effectivement le temps d'évaluer la gestion de certaines entreprises qui sont mises en cause par certains journalistes aujourd'hui?
C'est une opération que nous faisons régulièrement avec les entreprises. La NEP n'est pas là que pour défendre les intérêts des entreprises. Et aussi, pour défendre les intérêts des entreprises, il faut connaître ces entreprises. Donc régulièrement, la NEP évalue la situation des entreprises par rapport au sein chantier de la République, par rapport à la révolution de la modernité. Et les entreprises sont en train de faire des efforts considérables pour pouvoir assurer les rôles qui leur sont assignés par l'État, par le pouvoir public. Vous savez, M. Juillère, la température dans les entreprises est souvent mesurée par les grognes, par les sociales. Il y a quelques années, dans les entreprises publiques, il y avait régulièrement des mouvements de grève. Et depuis 5 ans, plus de 5 ans maintenant, il y a accalmé.
Mais dans le passé récent, nous avons vu, pour ne pas citer ces entreprises, nous avons vu des entreprises où les syndicalistes sont montés au créneau pour dénoncer la mégestion et ont vu au-dessus de la NEP et aussi d'autres responsables.
J'allais arriver à ça. La plupart des temps, et c'est ce qui a été prouvé, les grèves qui se sont passées récemment dans certaines entreprises, et vous êtes sans ignorer qu'il s'est passé aussi entre octobre de l'année passée et décembre, je pense, c'est la période d'annonce de la mise en place de mandataires publics. Vous comprenez que cela aussi a été alimenté par le
même. Vous citer, pour éclairer quand même la lanterne des auditeurs, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui sont visées par certains journalistes qui, en fait, sont dans ce groupe hein, de journalistes qui harcèlent les mandataires. Quelles sont ces entreprises? Juste les chantiers.
Monsieur Gilles, j'arriverai à cette question-là. Je terminerai d'abord la première, en rapport avec l'évaluation des entreprises. J'étais en train de vous dire que les entreprises sont en train de faire des efforts considérables. La situation dans les entreprises du portefeuille est sensiblement améliorée. Il y a là des entreprises telles que l'INPP qui, dans un passé récent, était dans la catégorie, dans le groupe des entreprises à liquider. Et avec aujourd'hui, ce qu'est en train de faire le DG Chikuya, l'INPP est parmi le centre des références en Afrique.
Mmh.
Vous avez une entreprise telle que l'OGFM, hormis son rôle majeur, le rôle majeur de chargeur national, l'OGFM est en train de faire des efforts considérables pour maintenir la paix sociale dans l'entreprise, le social est assuré et l'OGFM...
Il n'y a pas de retard de paiement?
Zéro retard de paiement. Et l'OGFM est dans l'investissement. Vous avez vu le bâtiment, une entreprise qui était
à l'OCC
une entreprise qui était locataire il y a peu, aujourd'hui le GFREM ne l'est plus. Le GFREM est en train de construire à Lubumbashi, le GFREM est en train de construire à Matadi, le GFREM est en train de...
C'est un cas isolé, à l'OCC par exemple.
À l'OCC, vous savez qu'à l'OCC, il faut féliciter le DG Kasongo, parce que vous le savez bien que le GFREM a été, l'OCC a été privé de 50% de ses recettes. Suite à un décret de son excellence, monsieur le Premier ministre.
Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, les travailleurs accusent 4 mois de retard.
La situation s'est améliorée. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne pense plus que c'est 4 mois.
Mm-hmm.
Le DGK, on a fait des... D'abord, ce qu'il faut faire, il faut les féliciter. Il faut les féliciter, monsieur Gilles.
Allons à la SONAS.
50%.
Allons à la SONAS.
La situation de la SONAS, monsieur Gilles, je vous dirais, ce n'est pas une situation conjoncturelle, mais une situation structurelle. Il y a des études qui ont été faites. Aujourd'hui, la SONAS, pour bien fonctionner, il faut un maximum de 200 à 400 personnes. La SONAS aujourd'hui est à 2500. Et le 2500, à 99% des cas, n'ont pas été engagés par l'actuel DG, je citerai Madame Carole Adito. Ils ont été engagés par le comité de gestion passée. Donc vous imaginez que pour une entreprise qui fait des recettes pour payer 200 à 400 personnes, ils sont à 2500. Donc c'est une situation qui nécessite vraiment beaucoup d'attention.
Voilà, on va revenir sur ça, parce qu'aujourd'hui l'ANEP accuse, certains groupes de presse pour, c'est ce qu'il qualifie de harcèlement médiatique. Elle a écrit officiellement au CESAC, nous aurons dans le cours de cette émission Chantal Kalimbo, qui est le rapporteur de CESAC, pour éclairer la lanterne des auditeurs, comment le CESAC a accueilli cette correspondance. Mais il est temps pour nous de rejoindre les auditeurs qui acceptent d'intervenir dans cette émission, mais tout en vous rappelant, vous qui nous rejoignez, donc de composer les 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes à Vienne, Maurice à Kinshasa, maître pratique à Matadi. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les invités avec qui nous allons nous échanger et à tous les amis de PA.
Voilà. Lorsque vous avez écrit, vous avez dit que cette situation dénoncée par l'ANEP démontre d'une autre manière comment certains organes de presse travaillent sans tenir compte de toutes ces normes professionnelles, déontologiques et éthiques liées à la profession journalistique et médiatique.
Oui. Je crois que je vais argumenter sur la même ligne. Je n'interviens pas d'abord pour protéger certains indices de l'exception dont on nous parle quelquefois, qui peuvent aussi parfois être faits, mais j'interviens plutôt pour rappeler que la situation que l'ONEP dénonce, démontre comment certains organes de la presse travaillent sans tenir compte de toutes ces normes professionnelles déontologique et éthique liée à la profession journalistique et médiatique. La question que nous devons nous poser est tout à fait simple. C'est de savoir si la presse chez nous peut convenablement son travail. C'est le travail d'informer, d'instruire les citoyens et en conformité avec le bon sens, en conformité avec l'objectivité. Parce que sans trop verser dans des polémiques, l'on doit dire que c'est parfois ridicule et honteux et suivre comment certaines émissions sont diffusées chez nous. La presse, qui est l'œil des citoyens, la sphère qui accompagne le peuple à exercer ses prérogatives intégrales sur la marche des activités de son État, doit faire preuve de beaucoup d'objectivité, de beaucoup de neutralité et de beaucoup de professionnalisme. Étant ainsi, chaque organe de presse est investi de cette mission de prévenir, de dénoncer certaines situations se trouvant en contradiction avec les lois de la République et aussi avec des lois universelles reconnues par certaines chartes. Mais cette mission ne peut s'exercer qu'en respectant toutes ces normes intégrales liées à l'exercice de son fonctionnement. Mais seulement chez nous, ce n'est pas toujours le cas. Et je trouve aussi qu'au lieu de nous arrêter seulement à ce que la NEP est en train de dénoncer, nous devons étendre nos dénonciations plus loin. Monsieur le journaliste, nous savons que chez nous, il y a des organes de presse qui ne mettent pas pour informer la population, mais des organes de presse qui émettent seulement pour salir certains leaders politiques, certaines personnes, certains visages. Et il y a parfois des émissions qu'on veut diffuser, des émissions qui sont préparées en concertation avec certains états-majors politiques.
Oui, oui, n'oubliez pas, n'oubliez pas que nous ne devons pas limiter les débats qu'à l'audiovisuel, il y a aussi la presse écrite. Et aujourd'hui, dans la plupart des cas, si en fait la NEP est montée au créneau, c'est pour en fait fustiger parfois le comportement de certaines presse écrites.
Oui, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand je dis deux médias, c'est, il y a la presse audiovisuelle et la presse écrite. Moi, tout ce que je fustige, c'est parfois le manque d'objectivité avec lequel certains organes de et mettre leurs positions. Parce que vous qui êtes de certains organes de presse, vous devez savoir que c'est une très lourde responsabilité. Parce que si vous êtes devant, il y a toute une foule de gens derrière vous qui vous suit. Et que vous amenez cette foule-là dans un ravin, je crois que quelque part devant le comptable, vous avez aussi une certaine partie de responsabilité.
Voilà, alors, parce que,
et quand vous savez que l'information que vous êtes en train de diffuser n'est pas vraie et que vous tenez là-dessus, vraiment, il faut avoir son cœur ailleurs pour tromper toute une population. On informe qui et on informe pourquoi. Parce qu'il y a des émissions préparées à base de la ruse, à base de la mesquinerie, seulement avec l'intention de nuire. Donc là aussi, je crois que les journalistes vous, de la presse audiovisuelle et écrite, vous devez vous interpeller. C'est pas parce que quelqu'un vous demande qui c'est qui. Il faut le dire, ou c'est pas parce qu'on est vraiment dans le besoin de faire dire quelque chose qu'il faut trouver des assises pour arriver coûte que coûte à cela.
Merci beaucoup, Franck.
De ce côté-là, il y a encore beaucoup à faire.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne, en Autriche, et surtout d'avoir apporté cette contribution dans cette émission. C'est vrai, vous demandez à ce que les organes de presse puissent donner beaucoup plus au professionnalisme, hein, et le respect de la déontologie et l'éthique de la profession. Comme ça, ça nous éviterait de pouvoir, au fait, de traiter les informations commandées ou peut-être il y a une main obscure telle que la NEP l'a dénoncé dans cette lettre référencée à NEP SEC DT 002-2015. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jean Lungemo, et merci de m'avoir associé au débat du jour.
Alors, comment vous commentez cette actualité, la NEP, qui accuse certains organes de presse?
Contrairement à notre ami, notre compatriote de Vienne, Franck, je pense que la presse vit dans la population. La presse, c'est un pouvoir, comme d'autres pouvoirs. Donc, elle doit faire son travail. Comme l'ONEP fait son travail, il faut laisser aussi la presse faire son travail. En communication, je crois, il y a ce qu'on appelle les droits des réponses. Lorsqu'on a publié une information qui n'est pas, au fait, à l'assentiment, qui n'est pas conforme, ou qui n'est pas, au fait, vraie, je crois qu'il y a droit de réponse qui est réservé. Au lieu qu'on puisse passer à l'intimidation. Parce que ça, c'est comment j'appelle ça, cette manœuvre-là. En fait, ce mécanisme-là, exploité par l'ONEP, c'est vraiment une manœuvre qui vise à restreindre la liberté de la presse. Je crois qu'il y a une réponse qui doit être réservée aux journalistes. Bien sûr, je reconnais qu'il y a, en fait, les moutons noirs dans la presse. Mais cela ne doit pas faire l'objet d'une certaine intimidation ou de dire je ne sais pas à quelle institution pour demander que cette presse je ne sais pas quoi. La presse doit être indépendante. Celui qui estime que les informations qui ont été publiées par la presse ne sont pas crédibles, il doit quand même apporter droit de réponse. On a vu par exemple une certaine presse ici, une certaine presse dite nationale, vilipendé un grand leader politique de ce pays, et exposer même les bulletins médicaux, tout ça, les bilans médicaux à la télévision.
Oui, Maurice,
on doit faire aussi la même chose, laisser la presse faire son travail. Lorsque j'entends monsieur le porte-parole de ces entreprises dire que les efforts considérables sont perceptibles, hein, mais je ne sais pas, ces efforts-là sont perceptibles dans quel domaine? Parce que nous vivons tous dans cette ville, nous vivons dans
une
ville.
Oui, Maurice,
monsieur. Les efforts considérables sont à quelle hauteur, sont à quel niveau?
Oui, monsieur Maurice. Boris, je crois que notre invité a évoqué tout à l'heure quelques cas qui sont perceptibles. Il y a notamment les cas de l'OGFREM où on construit quand même un siège pour l'entreprise, ce qui n'était pas possible par le passé. Et nous avons vu des efforts menés par l'INPP. Aujourd'hui, ils ont leur propre bâtiment. Et ce sont quand même des efforts à encourager. Alors, à ce niveau, si vous avez un journaliste, par exemple, comme l'a dit notre invité, qui, au fait, se livre ou ça donne à une campagne de déstabilisation des actions qui sont menées dans cette entreprise. Bon, je ne sais pas à quel niveau vous situez cette information, cette actualité.
Ce que j'ai dit, en fait, c'est ce que je disais. Moi, je pense que ce qu'il dit, oui, ils sont une certaine presse, en fait, qui s'accorde plutôt, je ne sais pas, dans une démarche, plutôt, qui s'inscrit plutôt dans une démarche à vilipender parce que, ils sont à gagner quelque chose derrière ces mandataires et qui ne trouvent pas gain de cause. Et ces gens-là s'arrogent, en fait, les droits de vilipender, de frapper les démarches des entreprises. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Je pense que, par exemple, vous venez de parler de l'OCC. À l'OCC, les agents de l'OCC accusent un retard de 4 mois de paiement. À l'UFM, il a parlé d'un bâtiment. Les bâtiments, je pense que les Congolais ne mangent pas les bâtiments. Certes, il y a quand même une importance de construire, de viser un bâtiment pour quand même créer de bonnes conditions de travail pour ceux qui travaillent pour cette entreprise. Mais les conditions sociales doivent être au-delà, même plus que même un bâtiment, parce que les gens peuvent travailler même sous un arbre, mais si quand même les conditions de travail, plutôt les conditions sociales sont acceptables, je pense qu'ils peuvent produire des résultats réalisants. Alors, par exemple, de l'entreprise comme FPI. FPI là, vous voyez, FPI depuis qu'il a été mis en place, mais qui bénéficie par exemple des crédits là-bas? Ce sont que des gens qui ont des affaires, qui ont des grandes affaires dans le pays. Et pourtant, ce n'était pas ça la vision de la FPI. FPI devait aider les entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises à évoluer, à créer quand même
un capital,
et quand même à constituer quand même un poids lourd dans l'économie du pays.
Voilà, Maurice.
Mais on donne des crédits aux gens comme, par exemple, des médias, des gens qu'on connaît, des
fait.
Alors, Maurice. Ce sont des gens qui ont quand même des fric, qui ont de l'argent, qui peuvent quand même, en fait, évoluer avec leur propre capitaux.
Voilà, mais Maurice, mais quand un journaliste, au lieu de dire ce que lui constate, il va au-delà, c'est-à-dire, il tombe sous le coup, par exemple, de la diffamation, et ça, c'est pas tolérable, quand même.
Qui gère cette entreprise, dont la population ne se retrouve pas dans cette gestion. Moi, je pense qu'on doit être quand même patriote dans certains sujets. Je dis quand même la vérité.
Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé de Kinshasa. Maître Patrick, vous êtes à Matadi dans le Bas-Congo. Bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kinshasa.
Vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup de la parole que vous m'accordez. J'ai bien suivi l'invité, mais aussi Maurice. Moi, je voudrais équilibrer les choses. D'une part, responsabiliser les mandataires des entreprises et d'autre part,
la responsabilité de la presse.
Audiovisuel et de presse. En fait, ce qui est vrai, il faut d'abord que les mandataires d'entreprise se répètent à gain.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Patrick, 081-890-6315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Chantal Kanimbo vient à peine de nous rejoindre. On va vous accorder la parole d'un moment à l'autre. Le temps de revenir dans ce studio avec Patrick Roulou, qui est directeur technique à la NEP. Vous venez de suivre cette série des auditeurs. Mmh. Voilà, alors comment vous agissez d'abord avant que nous accordons la parole également au CESAC?
Oui, j'approuve ce qu'a dit l'auditeur de Vienne. Puisqu'il faudrait savoir que la presse devait avoir une certaine déontologie que tous les journalistes devraient suivre. La première question est celle de savoir comment est-ce que ces journalistes sont recrutés. Qui est journaliste? Qui doit écrire des articles dans la presse? j'allais utiliser le verbe ramasser, mais si on prend n'importe qui, un petit frère qui est au chômage, on le met aujourd'hui journaliste, un petit frère qui était habitué, entre guillemets, par les opérations Matolo à la cité, ne vous attendez pas qu'il fasse mieux. Il continuera à faire la même chose quand il sera dans la presse. Donc il faudrait que le GSAC fasse un effort pour pouvoir, comme font les avocats, pour devenir avocat, il y a des séances de déontologie qu'ils suivent. Il faudrait que le GSAC fasse un effort, je ne sais pas si ça s'est fait ou pas, je ne suis pas du domaine, qu'il fasse quand même un effort pour que toute personne qui est engagée par un organe de presse suive ces séances de déontologie. Qu'il sache ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. En ce qui concerne le Maurice, je dirais qu'il ne faudrait pas confondre la liberté de la presse et le libertinage de la presse. Il ne faut pas confondre l'indépendance de la presse et le désordre. Un journaliste, c'est quelqu'un qui forme. Les écrits là, et la télé ne sont pas suivis par que les intellectuels, il y a aussi des enfants. Quand vous parlez de mandataire, il ne faut pas oublier que c'est un père de famille. Vous l'insultez à la télé, c'est le discrédit et de la famille et de l'entreprise. Donc il ne faudrait pas que les journalistes commencent par écrire n'importe quoi pour attendre un droit de réponse.
Mais Patrick, restons dans la logique qu'un mandataire gère la chose publique. Donc le citoyen congolais a le droit aussi de contrôler. Quand il n'y a pas une rédition des comptes, quand on ne sait pas dire à la population ce qu'on fait concrètement, je crois que, comme moi, vous le savez, la nature a l'horreur du vide. Et finalement, quand il n'y a pas l'info donnée clairement, les journalistes, n'oubliez pas, il y a certains qui s'adonnent à ce que nous appelons les journalistes d'investigation, et qui vont plus loin. Ils ont parfois des informations des syndicalistes qui travaillent à l'interne. Bon, c'est vrai, vous appelez ça manipulation, mais bon, ça c'est vous. Comment vous jugez? Est-ce que dans tout ce qu'on dit, qu'on traite comme information, à 80% tout est faux, les informations livrées par les journalistes en ce qui concerne la gestion des entreprises?
Monsieur Gilles, il ne faut pas oublier que l'État congolais, en créant les entreprises, n'a pas oublié de mettre en place des organes de contrôle de ces entreprises. Et ces organes font régulièrement leur travail. Dans les entreprises, que ce soit les établissements publics ou les entreprises du portefeuille, il y a régulièrement des missions d'audit, des missions de contrôle dans ces entreprises. Et rassurez-vous que si un mandataire était tombé dans un délit, il sera certainement sanctionné. Il y a des entreprises, je pense que, comme vous dites, qu'il y a des journalistes d'investigation.
Donc, il y a des entreprises, là, même au niveau de la NEP, vous ne reprochez rien au mandataire.
Il y a des entreprises dans laquelle il y a eu plus de 18 missions d'audit l'année. Vous imaginez?
Donc tous les mandataires sont clients.
18 missions d'audit. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de dire que tel mandataire a fait ceci. Quand il y a une mission d'audit, il y a des résultats. Et les résultats sont présentés à qui des droits, quant à celui-là de prendre des sanctions pour les cas de dérapage.
Voilà. On va écouter Mme Chantal Kalimbo.
Je sais que chez nous, il y a quand même des bons journalistes. Il y en a quand même des bons, tels que M. Kalimbo, qui vous venez de citer.
Voilà. Alors, parce qu'il représente c'est ça qu'aujourd'hui, dans cette émission, Mme Chantal, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, aujourd'hui, la NEP vient d'adresser une lettre dans laquelle elle dénonce, en fait, ce qu'elle qualifie de harcèlement médiatique qu'elle verse dans les comptes de campagne de sensibilisation, hein, de déstabilisation de certains mandataires de l'État. Alors, comment vous avez accueilli cette correspondance au niveau de CESAC?
Avant de répondre, je voudrais juste apporter une précision. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est une autorité de régulation des médias, s'occupe du contenu des médias en ce qui concerne la déontologie et l'éthique professionnelle des journalistes. C'est l'Union nationale de la presse du Congo qui s'en occupe. C'est juste pour rebondir sur les propos que l'intervenant de tout à l'heure avait tenus en ce qui concerne les journalistes, la formation des journalistes, le recrutement des journalistes. Vous savez, dans notre pays, pays, nous sommes dans une république, il y a des lois qui existent, qui organisent l'exercice de la liberté de la presse. Quand ils parlent du recrutement des journalistes, tout cela est déjà prévu, c'est organisé par la loi, notamment la loi du 2 avril 1981 qui parle du statut des journalistes. Pour revenir à la lettre qui nous a été adressée, nous l'avons examinée minutieusement. Le contenu, bon, c'est vrai que nous recevons beaucoup de plaintes de tierces personnes, des personnalités morales par rapport au comportement des journalistes. Et là, je crois que l'Union nationale de la presse du Congo, avec l'OMEC, ont beaucoup de choses à faire par rapport à cela. C'est une pratique qui existe, c'est vrai. Depuis plusieurs années, le harcèlement, parce que quand j'étais même à l'Union nationale de la presse du Congo, nous recevions beaucoup de plaintes par rapport à cela. Et donc, il y a un travail à faire en ce qui concerne le code de déontologie et d'éthique professionnelle. Au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, quand nous avons reçu la lettre, nous l'avons lue minutieusement et nous avons décidé d'organiser une rencontre avec les organisations professionnelles des médias, notamment l'UNPC, l'OMEC et toutes les ONG qui s'occupent de la défense de l'exercice de la liberté de la presse, notamment GED, OLPA, Freedom pour la presse, etc., etc., pour parler de ce problème qui est effectivement réel et qu'il va falloir qu'avec toutes les organisations, nous puissions trouver des mécanismes pour amener les professionnels de la presse à respecter leur propre code de déontologie et d'éthique professionnelle. Le travail du journaliste est un travail d'intérêt général. C'est vrai que les mandataires publics ont des comptes à rendre, mais le journaliste doit pouvoir le faire conformément au code de déontologie et d'éthique professionnelle et dans l'intérêt général, pas dans l'intérêt particulier, parce que c'est vrai, il y a des comportements qui n'honorent pas la profession, qui font que le journaliste donne des coups de fil aux mandataires publics pour leur dire voilà, j'ai telle information, je vais la publier, bon, si vous voulez que je ne la publie pas, donnez-moi ceci, donnez-moi autant d'argent pour que je ne la publie pas. Ça n'honore pas le journalisme, ce n'est pas du journalisme. Le journaliste, quand il a une information, il a vérifié, contre-vérifié, recoupé à beaucoup de sources et qu'il est sûr de cette information, le journaliste publie cette information dans l'intérêt général. Et le journaliste n'utilise pas une bribe d'information qu'il a glanée à gauche à droite, donc il n'a même pas pris la précaution de recouper et de vérifier et d'utiliser cela pour ses propres intérêts. Ça, ce n'est pas du journalisme et effectivement, nous devons en parler avec l'UNPC, l'OMEC, GED, OLPA, toutes les organisations qui défendent l'exercice de la liberté de la presse.
Oui, mais Madame Chantal, dans la lettre de l'ANEP, cette situation ne date pas d'aujourd'hui, parce que l'ANEP évoque une situation qui date de 2008. Ça fait exactement plus de 5 ans.
Non, ça dure depuis longtemps. Je vous ai dit, avant que je n'arrive au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, l'Union nationale de la presse du Congo, nous recevions beaucoup de plaintes par rapport à cette pratique des journalistes. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, il va falloir que nous nous mettions tous ensemble et nous essayons de trouver des mécanismes pour ramener les journalistes à une pratique professionnelle qui soit correcte, qui réponde aux normes universelles de la profession. Défendre l'exercice de la liberté de la presse, c'est d'abord cela, la propre pratique professionnelle que les journalistes font. Est-ce que c'est une pratique qui répond aux normes? Parce que si vous allez en dehors des normes qui sont établies, des normes universelles, ça ce n'est plus du journalisme. Et je crois qu'avec toutes ces organisations, nous devons travailler à voir comment assainir la profession pour que la profession retrouve ses lettres de noblesse, pour que les journalistes fassent du travail d'intérêt général et pas un travail, pas du mercenariat où, bon, parce qu'on a eu une petite information qu'on n'a pas vérifiée, qu'on n'a pas recoupée et dont on n'a même pas les preuves, et bon, on l'exploite pour pouvoir tirer des dividendes personnels.
Voilà, Madame Chantal, nous vous gardons en ligne le temps d'écouter quelques auditeurs et d'ailleurs Maître Patrick nous a rejoint dans cette émission. Il est à Matadi, et puis Daniel Alumbashi, et puis on reviendra également à notre invité Patrick Ngoulou, qui est le directeur technique à l'ANEP. Maître Patrick, vous êtes à nouveau en ligne. Rebonjour.
Oui, bonjour, c'est plutôt Maître Patrick de Mujimaï.
Voilà. Maître Patrick, vous êtes à Mujimaï. Quel est votre point de vue par rapport à la thématique du jour?
Ben, moi, je voudrais commencer par donner d'abord cette maxime, hein, je ne sais pas si je puis l'appeler ainsi, qui énonce que l'homme est le produit de sa société. On a évoqué un certain nombre de mots qui caractérisent aujourd'hui la profession journalistique. Hein, on est allé dans tous les sens, de gros mots ont été sortis. Moi, je pense que si ces mots-là existent réellement, et je serai sincère pour dire que réellement, la profession journalistique aujourd'hui accuse quand même des déficits, des dérapages. Hein, on les vit tous les jours. Hein, il y a des excès, il y a des abus. Mais puisque l'homme est le produit de sa société, les mots, on ne peut pas les trouver que dans les chefs des journalistes, mais également dans le chef des mandataires, parce qu'ils sont l'émanation de cette nation, l'émanation de notre République. Et chacun sait que notre pays va mal. C'est un secret des polichinelles. On l'expérimente chaque jour dans tous les secteurs de la vie. Alors, si les journalistes commettent des erreurs, cela est avéré plusieurs fois. Cela a été démontré même dans les cours des tribunaux. Je parle en tant qu'avocat. Mais je dis, cela n'exonère pas les mandataires de toute responsabilité. L'invité a évoqué certains faits, hein, certaines avancées dans certaines entreprises. Mais je dis, par exemple, pour ce qui est de l'hôtel qui vient d'acquérir son immeuble, moi je pense que ça ne peut pas être essentiellement, substantiellement, un indicateur de bonne gestion. Je dirais également que le fait qu'il n'y a pas de mouvement de grève, comme l'a dit l'invité, ce n'est pas non plus un indicateur de bonne gestion. Moi, je crois que chaque entreprise publique a un objectif à atteindre, et c'est par rapport à son potentiel. Mais j'ai envie de dire que tout ce que l'invité a évoqué comme progrès dans les entreprises ne peuvent nullement justifier la bonne gestion. Ça peut être des œuvres pour peut-être faire taire, hein, le voix, hein, mais je ne pense pas que ce soit les signes manifestes d'une bonne gestion, parce que nous vivons ici dans ce pays, nous savons. Et puis, ce que j'ai envie de demander, est-ce que les journalistes qu'on incrimine aujourd'hui, est-ce qu'ils ont accès aux informations? Parce que souvent, ils trouvent hors clause chaque fois qu'ils vont pour accéder à des informations. Moi, je pense que, pour clôturer, il y a un problème au niveau et des journalistes et au niveau des mandataires, qui ne sont pas toujours des très bons mandataires, et il serait dommage que notre invité les fasse passer pour deux anges aujourd'hui.
Merci beaucoup, Maître Patrick. Si je comprends bien, à votre niveau, le problème ne pouvait pas se poser dans la mesure où, dans les entreprises publiques, il y a quand même des services de communication dans toutes les entreprises, et qui pourrait permettre quand même aux journalistes d'avoir accès à l'information. Le problème se pose au niveau où peut-être il faut y arrêter sur l'information, on ne veut pas donner l'information aux journalistes. Et quand on sait tout de même que la nature aurait du vide, les journalistes en profitent et les moutons noirs, selon les styles et vos propos, en profitent pour, au fait, harceler certains mandataires qui ne peuvent pas se dédouaner, comme vous l'avez dit dans vos propos tout à l'heure. Merci beaucoup, Maître Patrick, d'avoir appelé de Matadi. Daniel, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Pierre, et bonjour à tous les amis de la radio de la paix. Pierre, permettez-moi de profiter pour cette occasion où je reçois pour la première fois cette année 2015 de présenter mes vœux à tous les Congolais et à tous les journalistes de la radio au capitaine qui nous fournissent un travail de qualité.
Merci, nous enregistrons.
Ok, Pierre, je voudrais dire les entreprises de l'État ici au Katanga, on a du mal, nous, en tant que population, de nous situer. Parce que, à suivre l'invité, j'ose voir qu'il est, hein, une organisation pour défendre les mandataires des entreprises. Alors, nous, on ne sait pas se situer. Est-ce que ce mandataire-là gère bien ou il gère mal? Vous suivez l'actualité récente ici au Katanga, lors du passage du Premier ministre. On a demandé au ministre d'économie pour la suspension de tous les directeurs de la DGRA de Katanga et à la direction des impôts.
Le ministre de Finance.
La mécession. Mmh. Alors, on ne sait pas si c'est d'autant plus que dernièrement, le Katanga était aussi placé que parmi les provinces qui contribuent à ce qui concerne la recette fiscale. Les recettes au niveau de la douane ont été augmentées par la rigueur. C'est que le gouvernement provincial disait que les recettes ont été augmentées, mais là, du coup, on assiste à un son de cloche qui fait qu'il y a ce que j'ai dit, on ne sait pas clairement ce que je veux. Je voulais dire. Si le journaliste congolais est à l'image de notre pays, la corruption, la pauvreté. Le plus souvent, c'est qu'on dit le marchandage de l'information du journaliste. En réalité, quand vous suivez des faits, c'est que l'information que détient les journalistes peut être vraie. Il y a des éléments, il y a des gestions. Et comme le journaliste congolais aussi est corrompu, il cherche à monnayer cette information. Et je peux prendre également l'exemple ici, permettez-moi de marcher quand
même. Oui, rapidement.
Quand on a limogé le PDG Khaled Khan, son successeur quand il est venu, il a recouru à la presse, il a fait des promesses, comment on va améliorer la position pour atteindre les 1500 tonnes de cuivre. Et il est encore caché à la télévision pour dire que Camille a atteint 1500 tonnes de cuivre. Mais quand vous échangez avec les agents qui sont au sein de la Camille, c'est la pauvreté, c'est la misère, ils ne sont pas payés.
Voilà, donc, restons dans le travail que fait le deux journalistes. Voilà, Daniel, merci d'avoir appelé de Lubumbashi. Patrick Ngoulou, directeur technique de l'ADEP, vous avez été signataire de cette lettre adressée au CESAC. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez suivi Chantal Kanimbo qui parle de toutes les corporations, donc notamment l'UNPC. L'OMEC, qui pourraient se mettre ensemble pour revoir un peu ceux qui s'occupent de l'aspect déontologique ou l'aspect de l'éthique, et vont s'en occuper, tandis que ceux qui sont chargés aussi de réguler, de surveiller le contenu, vont aussi faire leur travail. Mais à un sens, un peu les auditeurs, on se rend compte que c'est vrai que les mandataires ne doivent pas se dédouaner, autant exonérer pour dire ben voilà, nous gérons bien, c'est plutôt les journalistes qui font mal le travail. Parce que si nous voyons tout ce que nous observons à longueur de journée à la télé, tel mandataire est primé par telle corporation de journalistes, en ce moment-là, il n'y a pas de plainte, les mandataires, il est content d'être primé. Mais quand il y a dénonciation, c'est le problème. C'est à ce niveau-là que le problème se pose.
Je commencerai par d'abord remercier Mme Chantal Kanimbo pour la décision prise par le CESAC. C'est une décision salutaire parce qu'en fait, l'objectif de la mère, c'était d'arriver à cela. Je l'ai quand même... une rencontre entre les journalistes qui définissent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. En ce qui concerne votre question là, j'ai suivi M. Maurice, il a donné certains exemples. Je vous ai dit précédemment que les entreprises publiques ont des organes de contrôle et vous avez déjà suivi à plusieurs reprises tel ou tel mandataire être sanctionné, être suspendu. Ça vous dit que ces organes de contrôle fonctionnent et fonctionnent normalement. Les entreprises que je citais là, GSM et autres, sont des entreprises qui non seulement investissent pour donner un cadre, un meilleur cadre de travail pour leurs agents, mais ce sont des entreprises qui réalisent aussi leur mission, leur assignée par l'État, et aussi s'occupent du social du personnel comme il se doit. Donc ce sont des entreprises, même nous avons des rencontres d'évaluation régulières avec la DGI et les entreprises là que j'ai citées sont des bons exemples vis-à-vis de la DGI. Donc ils payent normalement le fisc. En ce qui concerne la question de M. de Mujimaï, je ne sais pas exactement ce qui se passe à la GKMI. Il ne faut pas aussi confondre les entreprises du portefeuille, les établissements publics et les services publics. La DGRAT, il a cité, et la DGI ne sont ni établissements publics ni entreprises du portefeuille, mais sont plutôt les services publics. Les mandataires ou les responsables suspendus là-bas sont des responsables de services publics dont la situation échappe à la maître. Je voudrais aussi faire corriger, nous ne sommes pas une association de défense des intérêts des mandataires. Nous sommes une association de défense des intérêts des entreprises.
Oui, c'est pourquoi il y a Boris qui a parlé de par rapport au contenu de votre lettre, oui, de l'intimidation.
Je voudrais dire que l'entreprise est représentée par son mandataire. Et chaque fois qu'il y a des dénonciations calomnieuses d'un mandataire qui ont des conséquences sur l'évolution des entreprises, la NEP intervient. Et la NEP n'intervient jamais pour des faits privés, des conflits parcellaires, etc. Là, la NEP n'intervient pas. Mais quand il y a des dénonciations qui ont une relation directe avec la vie de l'entreprise, la NEP, en ce moment-là, intervient.
Voilà, alors, madame...
Mais reconnaissons quand même que les entreprises, contrairement à ce qu'a dit M. Patrick de Mbouchima, les entreprises évoluent et il y a de grands progrès. Ça, nous devons les reconnaître.
Mm-hmm.
Et nous devons les reconnaître. Si l'Ogeferme a été primé meilleur chargeur africain, ce n'est pas par rapport à son bâtiment, ce n'est pas par rapport au social de l'entreprise, mais par rapport au travail qui est appelé à réaliser l'Ogeferme.
Alors,
aujourd'hui, l'INSS, c'est un grand projet qui, d'ici là, va commencer, les constructions de 1000 maisons. Et vous savez que beaucoup de mandataires non, à l'INSS qui sont passés n'ont jamais fait ça. Aujourd'hui, Mme Agnès est en train de les réaliser. Il faut quand même applaudir.
Est-ce que vous pensez, comme d'autres observateurs, qui estiment que cette lettre n'est pas à point nommé, dans la mesure où on évoque parfois l'approche de la nouvelle mise en place, attendue des chefs de l'État, donc dans les entreprises publiques, que la lettre va blanchir certains mandataires?
Blanchir, ce n'est pas la lettre de blanchir. Je vous ai dit qu'il y a des structures attitrées. Il y a des organes de contrôle des entreprises. Et les contrôles se font régulièrement dans les entreprises. Je vous ai dit qu'il y a des mandataires qui ont été sanctionnés pour mauvaise gestion. Ce n'est pas la NEP qui les a sanctionnés, ce sont des organes mis en place par l'État propriétaire.
Voilà, on va prendre Blanchard qui est à Kinshasa. Blanchard nous a rejoint. Bonjour Blanchard.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité.
Vous avez la parole, Blanchard.
Oui, bon, moi je voulais corriger certaines failles de la part de l'invité qui est sur le plateau. Vous voyez, le métier du journalisme, c'est un métier noble. Et les journalistes s'efforcent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour donner à la population ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire l'information. Il est vrai que les phénomènes coupage existent. Moi, je suis journaliste de formation. J'ai eu même à faire un travail sur l'indépendance du journaliste face à la collecte, le traitement et la diffusion des informations. J'avais compris beaucoup de choses qui est bon. Dans le monde, il se passe, il se peut qu'il y ait des journalistes qui cherchent de l'argent auprès des sources d'information à l'objectif de pouvoir déformer l'information. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, pour ces cas ici, moi, je pense bien que les journalistes qui aillent à envoyer les messages, comme l'a dit l'invité, auprès du chef d'une entreprise, je ne sais moins, un directeur ou qui. Bon, ils n'ont qu'à vérifier l'information, c'est pas de généraliser tous les métiers du journalisme en pensant que tous les journalistes font ici.
Non, voilà, je ne pense pas que la lettre de CESAC, pardon, la lettre adressée au CESAC, ce n'est pas d'une manière générale, on a jugé quand même le comportement de certains journalistes.
Et c'est bien écrit une certaine presse.
Une certaine presse, voilà.
Monsieur, je vous encouragerais, si vous n'êtes pas dans cette catégorie, d'y rester et de ne pas suivre les autres qui sont en train de monnayer les informations, qui sont à tout moment derrière le mandataire ou derrière les hommes politiques, etc., pour pouvoir survivre. Il faut éviter qu'il y ait le journalisme des survies, le journalisme du ventre, mais le journalisme qui a besoin d'informer, de former, d'éduquer la population.
Voilà. Alors, Madame Chantal, vous êtes encore avec nous en ligne?
Oui, je suis là.
Voilà. Donc, si je comprends bien par rapport à vos propos, cette lettre devait être plutôt adressée à l'UNPC.
Non, nous comprenons la préoccupation de la NEP. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avons pensé, parce que dans nos attributions, nous avons également la mission d'assurer la protection de la presse. Et la protection de la presse, c'est pas seulement les menaces qui viennent de part et d'autre contre les journalistes, mais c'est aussi la pratique professionnelle. Parce que si la pratique professionnelle ne respecte pas les normes, ne respecte pas l'éthique, alors ça peut également menacer l'exercice de la liberté de la presse. C'est pourquoi nous avons pensé que c'était des bons avoirs de nous réunir avec l'Union nationale de la presse du Congo, l'OMEC, Journalistes en danger, All Pass, Freedom, toutes les ONG qui défendent l'exercice de la liberté de la presse pour examiner ce problème qui est réel, c'est vrai, parce que ça existe depuis plusieurs années. Nous avons été interpellés à plusieurs fois par rapport à cette pratique, pour examiner de manière profonde ce problème et de voir ce qui peut être fait pour essayer de limiter ce comportement qui a tendance à s'étendre et à prendre de l'envergure. C'est vrai que les journalistes congolais travaillent dans des conditions difficiles, mais ça aussi c'est un autre aspect du problème sur lequel nous allons travailler en ce qui concerne les entreprises de presse, parce que notre travail c'est d'examiner les contenus, mais si les entreprises de presse ne sont pas viables, économiquement viables, ne peuvent pas avoir les moyens pour pouvoir prendre en charge les conditions sociales des professionnels de la presse et des médias qu'ils emploient, cette pratique là risque de se pérenniser et donc de compromettre l'exercice de la liberté de la presse.
Alors pourquoi
nous avons pensé que c'était important d'organiser cette réunion avec toutes ces
organisations. Alors pourquoi ne pas associer aussi la NEP ou encore certains mandataires, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit l'auditeur, il faudrait quand même qu'on explique aussi à certains mandataires comment fonctionne la presse. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand il s'agit d'encenser un mandataire, le problème ne se pose pas. Mais lorsqu'on est dans l'autre camp, c'est-à-dire dénoncer un cas de mégestion, c'est là où maintenant les violents ne s'accordent pas entre le mandataire et les journalistes. Pourquoi ne pas
Écoutez, moi, je ne sais pas si c'est le travail des journalistes d'aller encenser les mandataires. Bon, ceux qui doivent encenser les mandataires, ce sont les structures à qui les mandataires doivent rendre des comptes. Je ne sais pas si c'est ça le travail du journaliste, c'est là. Bon, ça pose problème. Peut-être on peut essayer de voir, de rester positif pour ne pas toujours critiquer et dire voilà, tel a bien exercé son travail, mais moi je ne sais pas si c'est le travail des journalistes de remettre des diplômes, etc., ou des choses, je ne sais pas. Et c'est vrai que le problème de sources d'accès aux sources d'informations se pose. Si vous êtes en possession d'une bribe d'informations et que vous cherchez à la recouper auprès des personnes habilitées et que vous constatez que ces personnes-là se ferment, ne veulent pas que vous accédez à ces personnes, mais vous savez, dans la pratique professionnelle, on peut dire voilà, j'ai telle partie de l'information, j'ai cherché à contacter la personne qui pouvait infirmer ou nier ce qui a été dit, mais cette personne n'a pas voulu. Et les gens qui lisent votre journal comprendront que vous avez fait un pas vers la personne pour pouvoir avoir son sang de cloche. Mais si vous ne le faites pas et que vous racontez ce que vous racontez, ça, c'est une faute professionnelle et je crois que les journalistes devaient tenir compte de cela. Journalisme et d'investigation implique beaucoup de responsabilités dans l'exercice de la liberté de la presse. C'est pas parce que vous vous dites que vous êtes journaliste d'investigation que vous allez mettre une partie de l'information que vous avez sans la confronter à une autre partie de l'information et dire à l'opinion, voilà, moi je l'ai cherché, mais cette autre partie a refusé de me répondre, les gens comprendront ce qui est autour de tout ça et vont analyser la situation par rapport à ce que vous dites. Mais si vous faites du sensationnalisme où vous cherchez à marchander l'information comme c'est le cas de plus en plus qui arrive pour vos propres intérêts, alors là je crois que l'exercice de la liberté de la presse est en danger.
Alors dans la plupart des cas, en fait, ces genres de comportements sont décriés du côté de la presse écrite. Pour certains observateurs, c'est là, en fait, cela appelle quand même l'assainissement du secteur et surtout de cette catégorie de la presse. Un travail de fond doit être fait de ce côté-là.
Oui, il y a un travail à faire. Assainissement, ça ne veut pas dire empêcher l'exercice de la liberté de la presse. Assainissement, ça veut dire est-ce que tel, pour nous, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, est-ce que tel média fonctionne selon les limites qui sont fixées par la loi, selon les conditions qui sont fixées par la loi, est-ce que c'est tel organe de presse a son récépissé pour pouvoir fonctionner parce que nous sommes dans un régime déclaratif, est-ce que tel organe de presse a rempli 1, 2, 3, 4, 5 conditions qui sont fixées par la loi pour pouvoir exercer la liberté de la presse. Et donc c'est ça le travail de l'assainissement que nous devons faire. Assainissement ne veut pas dire empêcher l'exercice de la liberté de la presse. Assainissement, ça voudrait dire maintenir un environnement propice justement à l'exercice de la liberté de la presse de manière responsable.
Madame Chantal Canimo, merci d'avoir accepté d'accompagner ce débat, l'échange citoyen de ce jour. Donc, nous retenons qu'il y a une rencontre qui est prévue par rapport à cette lettre qui vous a été adressée donc, par l'ANEP avec donc, l'OMEC et l'UNPC. Est-ce qu'on peut avoir une date?
Nous allons adresser des invitations à toutes ces organisations. Nous avons examiné cette question hier seulement au cours de notre réunion et donc nous allons lancer des invitations à toutes ces organisations. C'est dans les agendas qui vont mettre tout le monde d'accord.
Madame Chantal, merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Patrick Ngoulou, vous êtes directeur technique à l'ANEP. Et c'est vrai, vous avez suivi les uns et les autres, Madame Chantal notamment, qui a évoqué plusieurs aspects liés à la déontologie, à l'éthique, au respect de toute la pratique journalistique. Alors aujourd'hui, c'est vrai, l'ANEP, en tant que syndicat, joue pratiquement le même travail, le même rôle que fait l'UNPC pour les comptes de journalistes. Pourquoi ne pas organiser cette rencontre entre les deux structures pour voir un peu tous ces aspects qui, en fait, mettent les uns et les autres mal à l'aise.
Oui, monsieur J.R., ce serait quand même pas gentil de ma part si je ne remerciais pas madame Chantal Canimo, le CESAC en général, pour l'intérêt qu'ils ont accordé à notre correspondance et les actions projetées, envisagées pour mettre fin à cette situation qui crée un peu de désordre dans le milieu de la presse. Je tenais vraiment à la remercier et à remercier les CESAC à cet effet. La rencontre avec l'UNPC, c'est une rencontre que l'ANEP envisage. Vous remarquerez que l'UNPC a été aussi copié. Nous devons d'abord commencer par informer l'UNPC des faits
qui sont reprochés à
certains mandataires et ensuite organiser une rencontre. Et nous avons aussi projeté au niveau de la NEP, je pense que c'est en vie, et d'ici là ça sera organisé, deux émissions télévisées intitulées Les échos des entreprises. Les entreprises vont passer, expliquer ce qu'ils sont appelés à faire, ce qui est en train de se faire et ce qu'ils projettent de faire. Ces émissions, nous allons être en pourparlers bientôt avec la RTNC, qui est notre partenaire, parce que la RTNC est membre de la NEP. Il y a des émissions télévisées qui seront organisées pour permettre à l'opinion, pour permettre à la population congolaise, permettre aussi aux journalistes de connaître ces entreprises et de connaître les réalisations faites par ces entreprises.
Nous vous rappelons, chers auditeurs, que l'ANEP accuse en tout cas certaines presses de pouvoir tomber sur le coup de harcèlement médiatique. Donc nous allons voir tous les aspects. Comment vous commentez cette actualité? 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons Blanchard est à nouveau en ligne. Blanchard, vous êtes avec nous? Voilà, c'est plutôt Maître Mavinga qui est à Matadi, qui nous a rejoint. Maître Mavinga, bonjour.
Ah, bonjour, et bonjour à tous les auteurs de la radio Kati.
Voilà, ça a coupé lorsque vous intervenez à la première heure de cette émission. Si vous pouvez peut-être continuer votre idée.
Merci beaucoup. Je présente toutes mes excuses à la radio Kati sur cette coupure. En fait, ce que j'allais dire, après ça, a été déjà dit, mais je réponds quand même. En fait, moi, je me disais, il faut responsabiliser les journalistes ou les organes de presse, et aussi les mandataires des entreprises publiques. À l'effet, il ne faut pas commencer par condamner les journalistes en disant que c'est une diffamation. Si c'est une diffamation, il faut apporter des preuves, parce que vous parlez d'une infraction, il faut qu'il y ait des éléments matériels, des éléments. Oh, parmi les éléments, il y a les éléments matériels et les éléments intentionnels. Lorsqu'il y a une information qui est diffusée, est-ce qu'il faut simplement conclure en disant que cette information est diffamatoire alors qu'il n'y a pas une mauvaise intention? Moi, je pense que les journalistes, ils récoltent l'information, et comme il est un acteur social, il prend cette information-là, il la ramène à l'espace public pour que tout le monde puisse être informé. Il ne faut pas commencer à condamner les journalistes. Mais seulement ce que je demanderai aux journalistes, c'est un peu plus responsable que ça. Lorsqu'il y a une information qui n'a pas été vérifiée, il faut prendre toutes les précautions possibles pour ne pas le ramener à l'opinion publique en vue de ne pas blesser certaines dépendances. Mais aussi, en parlant de la NEF, moi je me dis hier, est-ce que c'est opportun d'écrire cette NEF maintenant? Parce que il se pourrait qu'il y a des mises en place de mandats d'entreprise qui vont bientôt sortir. Peut-être que la NEF est en train d'intervenir pour préserver les intérêts des mandataires des entreprises, afin qu'ils soient maintenus à leur poste. Là, je serais désolé. Parce qu'il ne faudrait pas venir prendre la défense des mandataires d'entreprise, commencer à vanter leur action par le simple fait qu'il y a une mise en place en vue. Vous voyez un peu ça. Moi, je me dis, la NEF, pourquoi elle n'était pas déjà montée au créneau avant? Parce que c'est fait. Mais je ne répète pas qu'aujourd'hui, c'est depuis longtemps que les juristes parfois écrit des choses contre les mandataires d'entreprise. Pourquoi seulement intervenir aujourd'hui? Moi, je pense que c'est pas une mise.
Oui, maître Mavinga, dans la lettre écrite, c'est ça que l'ANEP souligne que il s'agit là d'un rappel, parce qu'en 2008, ils avaient adressé encore à pratiquement des instances qui entraient donc dans, qui sont concernées par rapport à cette question. En 2009, l'ANEP est revenue encore sur la question, et 2012, elle a fait la même chose, et aujourd'hui, des ans après, donc en 2014, on revient encore sur ça. Donc, ce n'est qu'un rappel pour dire que ben voilà, à un certain moment on avait observé l'alcalmie, mais les choses sont encore revenues. Mais à l'approche de la mise en place des mandataires, on suppose que il y a des mains obscures qui commanderaient ces genres de formations traitées d'une manière subjective.
Oui, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il faut que tous ces mandataires d'entreprise se remettent en question. Donc, avant que là, même intervienne pour eux, il devait y avoir une réunion préalable. Il faut qu'ils puissent d'abord se mettre ensemble pour voir l'état des lieux. Pour voir qu'est-ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que s'il faudra commencer par accuser les journalistes, alors qu'il y a des failles qui existent réellement, ça ne sera pas intéressant. Il faudra d'abord que eux-mêmes, les mandataires d'entreprise et l'ANEP, qu'ils puissent avoir un moment où ils doivent se mettre ensemble. Pour traiter les informations, pour juger ce que les journalistes ont dit. Mais par rapport aussi aux journalistes, moi je demanderais aussi en amont que la CESAC ou l'UNP prennent des décisions et l'UNP se prennent des décisions à l'avance. Dernièrement, nous avons vu le ministre des médias qui avait suspendu certaines maisons de presse. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on limite le nombre des maisons de presse. Parce que tellement il y a une pléthore de maisons de presse, chacune de ces maisons-là tellement ces maisons sont nombreuses, chacune de ces maisons cherche à récolter les informations. Moi, je pense qu'il faudra aussi trouver des solutions en amont, limiter le nombre de maisons de presse pour éviter une concurrence déloyale. Parce que ce qui est vrai, il y a tellement une concurrence déloyale que chacune de ces maisons-là peut prendre les informations comme elle veut. Et moi, je pense que je demanderais à ce que les CESAC viennent prêter plus à travailler en connivence avec les ministères des médias et des communications pour limiter le nombre de maisons de presse, mais aussi pour prendre des mesures existant à ceux qui puissent avoir beaucoup de besoins de presse qui expliquent presse dans notre pays. Moi,
merci beaucoup, maître Mavinga. Patrick Ngoulou, vous êtes directeur technique de l'ANEP. Quelle est la réaction que vous avez par rapport aux intervenants d'avant les flashs d'information et maître Mavinga qui a parlé tout à l'heure?
Bon, par rapport à maître Mavinga, je dirais qu'il y a des rencontres régulières au niveau de l'ANEP avec les entreprises membres représentées par leurs mandataires qui évaluent la situation des entreprises. Je l'avais dit précédemment, la situation de chaque entreprise est connue de l'ANEP. Nous avons une bible qui répond, qui actualise régulièrement les problèmes que connaissent les entreprises. Ce sont nos membres, nous sommes en contact permanent avec eux. En ce qui concerne la mise en place des mandataires, non, notre objectif n'est pas, notre émission n'est pas en rapport avec la mise en place des mandataires. Mais nous avons seulement constaté qu'à cette période où on parle de la mise en place des mandataires, il y a des mains noires, des mains obscures qui actionnent.
À l'interne tout comme à l'externe.
À l'interne tout comme à l'externe. Et je vous avais dit précédemment que les mandataires sont tirés à boulet rouge de partout. Que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité ou de la société civile, et on estime, ils pensent qu'il y aura une mise en place des mandataires de cohésion nationale, comme il en a été le cas pour le gouvernement. Ces gens-là mettent le journaliste à contribution pour atteindre leur objectif. Salir un mandataire, l'écarter pour qu'il y entre. Mais nous savons tous que le chef de l'État lui a ses critères de sélection des mandataires. ça ne sert à rien que les gens utilisent la presse pour ces genres de sales besoins.
Mais il se devrait que, au niveau de la NEP, vous devez également sensibiliser les mandataires de l'entreprise publique pour, au fait, mettre opérationnel, hein, que le service de communication soit quand même opérationnel. Ça pourrait quand même permettre l'accès à l'information et les gens ne passeront pas par des mandataires de l'État pour chercher l'information. Donc je crois que directement, il peut traiter avec le service de communication si jamais ces services seraient également efficaces pour donner réellement les informations appropriées.
Mais les services de communication, j'estime que les entreprises sont en contact permanent avec la presse. Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et les organes de presse connaissent qui est-ce qu'il faut rencontrer dans l'entreprise pour pouvoir avoir une information. Ces organes les savent. Ces organes les savent. C'est pas pour rien qu'on parle des mains obscures.
Voilà, si vous permettez, on va prendre les derniers auditeurs de cette émission. Simon, vous êtes à Bataille et Pichou à Kisangani. Simon, bonjour.
Oui, bonjour. C'est Simon Tiloulou, coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile du Bas-Congo. Nous sommes très contents de l'émission telle qu'elle se déroule. Mais il ne faut pas seulement condamner les journalistes tels que l'invité le fait. Il doit aussi relever certains erreurs ou certains inemprises des mandataires. Vous savez que les mandataires des entreprises publiques ont difficile à publier, à mettre en public leur gestion. Aujourd'hui, non seulement aux journalistes, même à la société civile. Et la plupart, pourquoi ils le font comme cela? Parce que leur façon, leur nomination, ou sinon, ce qui leur a été fait aux autorités de les mettre en place, ils rendent compte. C'est-à-dire, il y a des opérations retour. Outre des opérations retour, beaucoup de mandataires sont devenus les chiens de chasse de ceux-là qui les nomment en place. À l'ère des mandats, des exigences insurmontables, et les mandataires, dès qu'ils sont sur ce point-là, et qu'il y a des auditeurs qui viennent, même les auditeurs, lorsqu'ils quittent Kinshasa pour venir dans les entreprises publiques, ils sont déjà orientés par ceux-là qui sont dans des institutions hautement placées, en promettant d'ailleurs que si vous ne faites pas ça, ce poste est envié par plusieurs. Je vais te faire preuve. Il suffit que le mandataire soit honnête dans sa façon de faire et qu'il ne redonne pas l'opération retour ou qu'il ne mette pas une entière satisfaction ceux qui ont contribué pour qu'il soit là. Il est foutu, il sera écarté. Et les auditeurs qui viennent, lorsqu'ils n'acceptent
oui, rapidement,
pas,
Simon, parce qu'on a plus assez de temps.
Qu'il reçoit. C'est ses supérieurs, il n'aura plus de mission.
Voilà, merci beaucoup Simon d'avoir appelé des Matadi. On va accorder une minute également à Pichou à Kisangani. Pichou, bonjour.
Oui, bonjour, Pierre. Bonjour, l'invité. Bonjour, le producteur de la radio Kassou.
Vous avez la parole, Pichou.
Juste, moi, je suis le président de condamner la presse. Parce que la presse est aussi trop.
Désolé, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible à Ronde, Pichou, suite à cette mauvaise qualité des communications. Nous revenons à vous, Patrick Roulou. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? La NEP a adressé une lettre au CESAC. Le CESAC a bien accueilli la correspondance et a réservé d'ailleurs une réponse rapidement en proposant une rencontre avec l'UNPC et l'OMEC. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de cette promptitude avec laquelle le CESAC a réagi?
Ça me fait grandement plaisir. Ça voudrait dire qu'au Congo, il y a beaucoup de structures qui fonctionnent, beaucoup de structures qui travaillent. La rapidité avec laquelle, et c'est ça qui a reçu la correspondance, je pense, de Raphaël de la semaine passée, a réagi, nous rassure. Nous rassure qu'il y aura des choses qui vont être améliorées, nous rassure qu'il y aura des choses vont aller le mieux maintenant avec les journalistes, et qu'il y aura un partenariat qui sera noué avec la NEP, les CESAC et l'UNPC, afin qu'ensemble nous puissions mettre fin à ce genre de pratiques. ça me rassure. À ce qui concerne le dernier intervenant du Bas-Congo qui a parlé des difficultés à mettre en public leur gestion, j'avais dit précédemment que la NEP envisage, c'est ça fait d'ici là, très bientôt, une émission à la télévision intitulée Écho des entreprises, où chaque entreprise aura un espace passé pour pouvoir présenter ses réalisations, présenter ses missions, présenter au public, au grand public, parce qu'il ne faut pas oublier que les entreprises de l'État appartiennent au peuple congolais, présenter à ces peuples congolais-là ses réalisations.
Patrick Goulou, vous êtes directeur technique à la NEP. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir partagé cet échange avec les auditeurs. À très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Merci à Dieudonné Nyangasa qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie Feza Bongonda. Une émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve demain dans un autre numéro.